بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous a protégés de ce cyclone, qui a protégé l'île Maurice, qui a protégé la Réunion, et en ce moment nos douas sont pour nos frères et sœurs à Madagascar, qu'Allah les garde sous sa protection. Nous complétons ce soir, incha'Allah, l'étude du nom d'Allah Al-Shafi en voyant ce que l'auteur a énuméré comme asbab, comme moyen qui permet aux croyants de trouver la santé, moyen bien sûr issu de l'enseignement prophétique. Alors on ne va pas s'étaler sur les choses qu'on connaît, hein, Halabatou Saouda, le miel, ça il y a des ouvrages là-dessus. Il y a des ouvrages à Tibboun Nabawi, vous pouvez le prendre et lire de vous-même, et le but c'est pas de développer ça, mais c'est juste de donner quelques indications pour ouvrir un peu nos yeux, pour ouvrir un peu nos cœurs et nous permettre de comprendre que au-delà des traitements à base de médicaments, il y a un terme scientifique, j'ai oublié comment ça se dit, quand on parle de traitement à base de médicaments, il y a un terme, il y a d'autres choses. Et je n'appelle pas ça une médecine parallèle, j'appelle ça la médecine prophétique. C'est pas parallèle, c'est la al-as. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant. Mais qui dit médecine prophétique, Tibboun Nabawi, ça veut dire yaqin et iman, conviction. La médecine prophétique, que ce soit le miel que tu consommes, que ce soit la habbatou saouda, n'aura d'effet sur toi qu'à partir du moment où il y a une certaine pureté intérieurement et tu as une confiance et une conviction que dans ces asbab, Allah Rabbul Izzah a mis la santé, parce que le prophète alayhi salatu wassalam me l'a dit. C'est pas une question d'acheter le miel d'excellence. Des fois on se dit que voilà, on va voir le chapitre sur le miel, le prophète me dit qu'il y a la santé dedans, donc je vais chercher en commerce le miel le plus cher, le plus coûteux. Si vous voulez le miel le plus cher, moi je sais où trouver, pas localement à Madina Munawwara. Allahu Akbar, je me rappelle, près de ma maison, il y avait des magasins qui vendent du miel. Et parmi les miels les plus chers que j'avais acheté pour une personne qui est décédée, c'était un miel qui venait de Madina. Mais à un prix, par plus d'eux, je ne peux pas vous dire combien ça coûtait. Mais je l'avais acheté et j'avais envoyé pour quelqu'un qui était souffrant, et alhamdoulilah. Donc ce n'est pas parce qu'on achète le miel qui coûte, allez, on va dire 200 euros le bocal, que voilà, tu prends, tu auras la santé. C'est pas ça. Ça, c'est un asbab. Mais tout va dépendre également de la niya, de l'intention et de ta conviction sur l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Mais avant d'aller vers les points qu'on a dit qu'on ne va pas détailler, mais qu'on est en train de détailler, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier sabab que l'auteur a cité pour retrouver la santé, ad-du'a. Et donc là, on sort complètement des choses palpables. Ad-du'a. Hein. Le prophète alayhi salat wa salam dit. Alors, j'ai écrit le hadith. Non, c'est pas celui-là, il y a un autre. La yazidu fil umri illa al-birr. Wa la yaruddu al-qadra illa ad-du'a. La deuxième partie du hadith nous intéresse. Dans le cas, le prophète, on commente tout pendant qu'on y est, on est là. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, la seule chose qui permet aux musulmans de voir son espérance de vie augmenter, c'est al-birr, c'est le fait de bien agir avec son prochain. Je répète, l'action qui permet aux croyants de voir son espérance de vie augmenter, c'est al-birr. Et al-birr, ça a été commenté par les muhaddithin, birrul walidain, silatul rahim, al-ihsan ila an-nas. Le birr, c'est bien se comporter avec ses parents. Le birr, c'est également garder le lien avec la famille. entretenir, respecter les anciens. Le birr, c'est bien agir avec tout le monde. Tes voisins, les gens que tu connais, les gens que tu ne connais pas. Ce sont des actions qui plaisent à Allah Azza wa Jal. Et cela porte une baraka dans ta vie. Et cela te permet de vivre plus longtemps. Ça a toujours été le rêve de beaucoup de personnes, non? Vivre longtemps. Après, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez envie de vivre très longtemps? C'est une question. Quel est l'intérêt de vivre 120 ans, 130 ans? Je ne sais pas. Si on va commencer à parler russe dans 15 ans, je ne sais pas. Dans un monde de fitna, de difficultés, il y a un juste milieu. Ce n'est pas non plus de dire que voilà, prends à moi, mais fatigué. Non, 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 non. Ça, c'est des paroles défaitistes, ça. Ça, ce sont les faibles qui disent. Les personnes faibles. Pas faibles d'esprit, hein. Faibles spirituellement. Quand ils sont dans la difficulté, ils font, voilà, reprends-moi, mais qui est plus trop compliqué, dunya, là. Ibn al-Nas, le prophète, alayhi salat wa salam, a vécu des situations que tu n'imagines même pas. Ayyub, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, je vous citerai tous les Anbiya, et vous savez un peu l'histoire de tous les prophètes. Jamais un prophète a demandé la mort. Abad. Mais demander à Allah la force de tenir fermement, d'accueillir l'épreuve, de le vivre comme Allah l'a demandé et de réussir ce qui est peut-être l'épreuve de ma vie. C'est peut-être mon pont, mon accès au Jannah, au-delà de mes a'mal. C'est peut-être ce qu'Allah m'a accordé. L'épreuve, c'est ce qu'Allah t'accorde et qui te permet d'accéder au Jannah. Donc voilà, je m'embarque dans une longue thématique, mais un extrême, c'est moins de difficulté, demande à Allah de mourir. Non. Par contre, petite parenthèse, il y a un doua de lequel le prophète alayhi salat wa sallam nous enseignait, Allahumma ahyini in kanat il hayatu khayran li wa mitni in kanat il mautu khayran li. Par qiyas et analogie, Hudhayfa a trouvé la réponse. Doua qui veut dire oh Allah, s'il y a un khair pour moi, un bien pour moi de vivre encore, accorde-moi la vie. Et si tu sais qu'il n'y a aucun bien pour moi de ce dunya, reprends-moi. Ça, c'est autorisé. Ça, c'est autorisé parce qu'on s'en remet à Allah, à la décision d'Allah. Donc, un extrême, c'est moins de difficulté, demande à Allah, reprends-moi. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Et l'autre extrême, c'est vouloir vivre longtemps. Et là, ça nécessite un détail. Vivre longtemps, pourquoi? Maintenant, si c'est vivre longtemps pour bien manger, bien boire, pour jouir de la vie, c'est un raisonnement totalement incohérent. Déjà, quand tu seras vu à 80, 85 ans, après, il faut voir combien de dents il te reste aussi, hein? D'accord? D'accord? Même si tu fais des implants dentaires à 3000 euros l'unité, et combien de temps tu veux jouir de ce dunya? Combien de temps tu veux profiter? Le prophète, alayhi salat wa salam, lorsque l'ange de la mort lui est venu, il lui a proposé de rester encore et de profiter de ce dunya ou de retourner auprès d'Allah. Il a dit quoi? Revenir vers Allah Azza wa Jal. Na'am. Donc maintenant, dans quel cas on peut souhaiter vivre longtemps? Vivre longtemps pour mieux adorer Allah. Vivre longtemps pour se rapprocher d'Allah. Vivre longtemps pour demander istighfar. Vivre longtemps pour obtenir la protection contre le feu de l'enfer. Il y avait un sahaba qui, le nom ne me revient pas, est-ce que c'était Ibn Abbas ou c'était un tabi'in, le nom ne me revient pas. Il me disait, j'ai pas ce niveau. Il disait que, avant de mourir, il dit qu'il n'y a rien qui me retient de ce dunya. La seule chose qui va me manquer si je quitte ce dunya, c'est les majalis et dhikr, les assemblées de dhikr. Et dhikr bima'na, dhikr qui veut dire al-ilm, des assemblées religieuses où on enseigne le Coran, le Hadith, où on apprend. C'est la seule chose qui me tenait à cœur de ce dunya. Autrement, les autres choses, aucun problème. Retourner auprès d'Allah, c'est le but de ma, le but, c'est une étape de ma création. Na'am. Donc, pour revenir à ce que le professeur me dit, que si quelqu'un veut vivre encore plus longtemps, c'est de faire al-birr, ce genre d'action. Et vous voyez ce que le prophète m'a cité, hein? Il n'a pas cité tahajjud, il n'a pas cité un khatm al-Qur'an tous les trois jours, jeûner toute l'année. Non, il a cité des actions qui font partie même de c'est l'essence de la relation humaine et qui fait l'unanimité entre les religions. Parce que c'est ce qu'Allah a demandé aux Yahoud et aux Nasara, aux religions qui ont été révélées par Allah. Les gens du livre, ils avaient également comme consigne le respect des parents. Qu'est-ce que Isa alayhi salam avait dit? وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, de bien âgé avec ma mère, parce qu'il n'avait que la maman, bien sûr. Il a réalisé. Donc voilà, hein, si Adjissa veut vivre très longtemps, voilà ce qu'il doit faire. Après, il y a des gens aussi qui disent « l'aide à longue vie ». Les ulama disent que ce doigt n'est pas complet. En arabe, ça dit « Allah yutil umrak ». Les ulama disent « il ne faut pas dire ça, il faut compléter ».« Allahu yutil umraka fit-ta'a ». Fit-ta'a qui veut dire « dans l'obéissance ». Que dit « l'aide à longue vie » dit « oui, précise, bah, précise, dans l'obéissance ». Ce qui veut dire que si tu vis longtemps mais tu n'es pas de l'obéissance, non. Tu construis ta place au contraire de le Jahannam, qu'Allah nous protège. Donc voilà un peu notre rapport avec le temps, avec la vie. Qui sont les personnes qui sont vraiment attachées à la vie? Ce sont ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Parce que pour eux, il n'y a que ça. Et quand c'est fini, c'est fini. Après, il y a ceux qui sont dans d'autres approches, hein, qui disent qu'après la vie, il y a d'autres vies, on se réincarne. Bon, ça c'est, on ne va pas parler de ça. Mais la majorité des personnes qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qui ne croient pas en l'au-delà, pour eux, quand on meurt, khalas. Donc, autant profiter jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'on voit des gens qui vont à Ibiza, qui s'éclatent, qui vont en boîte de nuit, qui boivent, qui consomment. Ils ont besoin de profiter au maximum, de remplir leur corps et leurs cinq sens du maximum de bonheur. Et ça fait pitié, c'est triste. Parce qu'on se dit que, khasira dunya wal akhira, rien gagné, rien gagné. Même pas un sijda devant Allah. Même pas une fois, il a demandé tawba et istighfar. Nous devons avoir de la compassion, hein, pour ceux qui sont dans l'égarement de façon globale, et doit pour eux et faire des efforts pour les ramener vers le haq. Allez, on n'est toujours pas entré dans le sujet de ce soir. La suite du hadith, wala yaruddu al-qadra illa ad-du'a. Et la seule chose qui, là il faut trouver la bonne traduction, je n'ai pas trouvé une traduction officielle, mais je vous l'explique. Wala yaruddu al-qadra illa ad-du'a. La seule chose qui repousse le destin, mais je mets des guillemets, hein. La seule chose qui repousse le destin, c'est le doua. Ça veut dire quoi, repousser le destin? Et je vais être très rapide, c'est pas un dars de hadith, ça c'est avec Mufti Assad mardi prochain. Si on fait charh hadith, on peut pas continuer le nom d'Allah. Donc on choisit le mot doua. Très rapidement, les muhadithins disent que il se peut qu'Allah ait prédestiné pour toi une difficulté, une épreuve. Allah protège un accident, Allah protège un AVC, Allah protège un problème, même sur le plan financier, plan familial, et ainsi de suite. Et à force de demander doua tout le temps, et demander Rabbana atina, les meilleurs des doua, fil dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Tous ces doua de protection, de bien-être, de protection d'Allah, ben Allah Rabbul 'Izzah éloigne ce qui t'était prédestiné. Après, si je veux aller vraiment très loin dans les charh de hadith, les savants disent que les malaïkas ne savent pas ça. Les malaïkas à qui Allah a donné l'information sur ce qui va t'arriver, sur les choses qui doivent t'arriver, ils ont juste l'information principale. Mais par rapport à ce doua, ça change et ils ne savaient pas encore. C'est-à-dire que tu as, c'est pareil pour la vie, estimons, espérance de vie, je suis censé vivre 82 ans, par des bonnes actions, Allah t'accorde des années en plus. Donc ça c'est de l'ilm d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce qu'on retient, c'est que le doua peut changer notre destin. Et le doua, c'est la protection du croyant contre les choses mauvaises. Après, mes chers frères, quand on fait doua, il faut le faire avec... Il y a deux mots en C. Cœur et...
Confiance.
Pas mal. Et conviction. Avec cœur et conviction. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, un révélateur de notre relation avec Allah, c'est la qualité de nos doua. Et je le dis encore une fois, la qualité de nos doua, c'est pas le imam, il fait doua 30 minutes, tu es là, amin, 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 ou gratte toutes oreilles, ou regarde qui il est, ou dit, ben, il doit, t'as pas fini de dire, là, il répète, et t'as bugué, là, et ainsi de suite. Ça, c'est pas ce qu'Allah, Rabbul Izzah, attend de nous. Qu'Allah dit, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah est proche de toi. Le doua doit venir de ton cœur. C'est une conversation, c'est un échange, ce sont des plaintes avec Allah. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se plaindre avec les gens. Moi, j'ai horreur des gens qui se plaignent. Moi, quand j'entends quelqu'un qui se plaint sur son sort, je pars. Enfin, après, quand on ne peut pas partir, ben, on écoute, on fait sabar. Je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Il y a des gens qui ont plus d'épreuves que toi. Ma yakul shay, dis rien. Notre prophète, Yaqub alayhi salam, qu'avait-il dit? Situation difficile avec son fils Youssouf, avec son fils Benjamin, trahison de ses enfants. Il n'y a rien de pire que d'être trahi par ses propres enfants qui mentent, qui font croire des choses et qu'ils se rendent compte de la jalousie qui habitait le cœur de ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Il s'en remet. Lisez la traduction, le tafsir. C'est magnifique. C'est trop beau. Ça remplace le Lexomil, ça remplace le Stilnox, ça remplace le Xantan, je ne sais pas quoi, tous les trucs pour les gens qui ont des dépressions. Et Allah protège et donne la santé à ceux qui sont perturbés également. Donc, ne pas se plaindre. Ne te plains pas aux gens. Ça ne sert à rien. Même quand tu vas voir, il y a des gens qui vont voir le docteur, ils se plaignent. Il n'est pas là pour t'écouter, il est là pour te donner le traitement. Dis de quoi tu souffres. Il raconte son vieux, il a fait ça, après il a dit moi ça. Ya ibn al-halal, tu fais perdre du temps à beaucoup de gens. Si tu veux, le seul à qui tu peux t'adresser pour te plaindre, c'est Allah. Et tu peux dire, ya Allah, telle personne m'a fait ça, telle personne a été injuste envers moi. Plains-toi à ton Seigneur, dis-lui tout et demande. Et Allah exauce. Ça, c'est qualité des doigts. C'est demander des choses qui te concernent et pour lesquelles tu es concerné, impliqué, tu demandes avec cœur et conviction. Il faut qu'on améliore la qualité de nos doigts. Ça, c'est important. Et se priver de ça, c'est se priver de quelque chose d'énorme. Combien de personnes après la salah ne font pas doigts? Après, je ne suis pas dans le jugement. Il se peut que la personne est mal garée, il se peut qu'il y a des occupations, il y a des attentes. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? Mais je veux dire, si je suis cette personne qui, après la salah, je ne fais pas mes adhkar, combien de personnes se lèvent et partent? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Combien de kunuz ad-dunya wal-akhira, combien de trésors ils se privent? Les tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. On connaît les différents endroits qu'on a déjà cités au moins 10 fois dans les majlis. Il y a des gens qui se contentent, ils font le doigt avec l'imam et ça les console, ça les conforte. Pour eux, voilà, le doigt est fait et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Je ne parle même pas de faire sunnat, non, ça c'est une autre histoire encore. Le prophète, alayhi salat, après la salat, il restait, il se posait, il fait ses adhkar et ensuite il fait ses doigts. Fais doigt après la salat, surtout après la salat faraz. Obligatoire, c'est important, fais-le. Et fais-le avec la qualité. Et surtout, fais les doigts après les adhkar. C'est autre chose. Quand tu as déjà fait les louanges d'Allah, demandé pardon à Allah, il y a une connexion, il y a un mujahada, il y a une sakina. Et là, demande à Allah, demande. Si tu n'es pas pressé, fais doigts 10 minutes, 15 minutes. Tu feras tes sunnah. Après, ce n'est pas grave. Demande le maximum. Qu'Allah nous permet de nous impliquer de les doigts et nous accorde la qualité des invocations. Celui qui trouve refuge dans les doigts, c'est franchement quelqu'un qui a tout compris, qui a tout. On peut lui faire n'importe quoi, comme mal, comme volme. Il a son Seigneur à qui il peut se plaindre. Allez, on revient vers le sujet. Abdurrahman attend la recette pour Kalunji, comment il faut consommer. Et moi, je suis en train de vous embarquer. Moi, je suis en train de vous embarquer dans les doigts, mais pour moi, c'est essentiel. On continue, hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Là, on passe à deux éléments, rendre visite à un malade et une doua. Anin Nabi alayhi salatu wa salam, قال, man aada maridan lam yahdur ajaluhu. Celui qui rend visite à un malade pour qui la mort n'est pas encore arrivée. Je traduis ça en gros. Pour qui c'est pas encore ses dernières heures. فقال عنده سبع مرار. Et qui dit auprès de cette personne, combien de fois? 7 fois. As'alullah al-azim. Je demande à Allah, le magnifique, le très grand. Rabb al-arsh al-azim, le Seigneur du trône magnifique. En yashfiak, de t'accorder la santé. Illa afahullah min dhalika al-marad. Allah accordera la santé à cette personne qui est malade. À condition que tu le fasses avec conviction et que tu sois quelqu'un de pieux, enfin c'est un grand mot, mais que ça émane de quelqu'un qui mange la crainte d'Allah et qui a donc avec ça il aura la conviction sur ce doua et que la personne Allah écrit pour elle la santé et n'a pas écrit pour elle la mort ou qu'il n'y a pas une hikma ou Allah n'a pas décrété qu'il y a une sagesse dans cette maladie qui va se prolonger. Et quelles peuvent être les sagesses d'Allah? C'est connu que d'Allah. Mais parmi les choses qu'on peut comprendre, quand Allah rallonge une maladie pour une personne, c'est que Allah veut le purifier complètement et entièrement. Allah veut enlever beaucoup de saleté qu'il peut y avoir dans son cœur qui a été cumulé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le but c'est quoi? C'est préparer cette créature à retourner vers lui. Et Allah, dans sa clémence, dans sa générosité, l'éprouve par la maladie pour enlever ses gounans, ses péchés, pour qu'il revienne vers lui pur. Mais l'être humain ne comprend pas. Nous-mêmes, nous avons du mal à comprendre, à cerner. Pourquoi? Pourtant, c'est quelqu'un de bien, il est toujours premier rang, il fait leur salat. Comment est-ce qu'il peut être éprouvé comme ça? Allah connaît des choses que nous ne connaissons pas. Aham Shay, tu t'en remets à ton Seigneur et tu sais que ce qui vient de lui, là-dedans, même il y a un, il y a un khair. On revient. Et donc, le doua que Cheikh Bilal va nous rédiger, si cette carte existe déjà, je pense, non? C'est connu, ça. Ben, lire cette fois quand on va rendre visite à un malade. Après, je ne veux pas rentrer dans trop d'explications parallèles, mais quand on va rendre visite à un malade, il y a un adab. Il y a un adab aussi, l'éthique, quand on va rendre visite à un malade. Parmi les points qu'on doit retenir, c'est que la visite ne doit jamais être longue. Ne reste pas longtemps. Tu ne sais pas, la famille, lui-même, il est dans une taclif, dans une difficulté, ou alors sa famille, ses proches ont besoin d'être auprès de lui. Tu viens lui rendre visite, alhamdoulilah, 2 minutes, 3 minutes. Maintenant, si tu vois que la personne a envie de te parler, de raconter, écoute. Mais les visites à un malade ne doivent pas être longues. Quand on rend visite à un malade, il y a les doigts à lire, mais également il faut remonter son moral. Comment on remonte le moral? C'est pas juste de déconsidérer sa maladie, dire que non, ça rien, ça c'est pas une grande affaire. D'un jeune médecin, il connaît traiter, il a bon médicament. Qu'est-ce que tu as apporté? Développe son husnul dhanni billah, sa pensée positive à propos de son Seigneur. Allah c'est al-shafi, al-kafi. Allah qui envoie la maladie, Allah qui envoie les difficultés, c'est Allah qui reprend, raconte l'exemple d'Ayoub alayhi salam. Si on a le temps, on peut donner du temps au malade, ben, remonter son moral, remonter son iman plutôt, on va dire. Faire en sorte qu'il s'en remet à Allah. Et il comprend que ce qui lui arrive, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait pu éviter. C'est vraiment la volonté d'Allah qui s'accomplit à travers cette épreuve qui est là pour une sagesse qui n'est connue que d'Allah Azza wa Jal. Après, ce qu'il ne faut pas non plus, c'est presque risible de dire, mais il y a des gens qui n'ont pas assez de recul. Et par exemple, quelqu'un a une maladie, j'ai un ami qui avait ça, même problème, après il est mort seulement. Ibn al-Nas, ne lui dis pas ça. Tu vas le détruire plus encore. Donc voilà, si tu ne sais pas quoi dire, fais doua Abbas, d'accord? Et franchement, aider le malade à placer sa confiance en Allah, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut lui accorder. Dans le hadith, on est avec le hadith que j'ai cité et rapporté par Abu Daoud. Deuxième hadith, et puis on va s'arrêter là pour cette partie. Hadith de Sa'd. Quel Sa'd? Ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu قال. Alors c'est un peu long. Il était malade, il était à Mecca. Il dit j'étais très malade. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. Le prophète alayhi salat wa salam est venu me rendre visite. L'humilité de le prophète alayhi salat wa salam. Il ne s'est jamais considéré comme Rasul Rabbil Alamin, l'envoyé du Seigneur des mondes pour l'humanité. Et donc, si vous voulez quelque chose, venez me voir. Non, c'est lui qui allait voir les gens. Et il allait rendre visite à tout le monde. Les personnes qui étaient malades, les personnes qui étaient en souffrance. Et donc, ça va voir Sa'd. ثم وضع يده على جبهتي. Il a posé sa main sur mon front. Donc ça, bien sûr, on le fait. Si on est un homme avec un monsieur, bien sûr, ça c'est très clair. Mais après, si on a une certaine proximité, certaine affinité avec la personne, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, on ne faut pas le mettre dans l'embarras non plus. Le prophète a posé sa main, Mubarak, béni, sur le front de qui? Ah, c'est bien, vous suivez. De Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Thumma masaha yadahu ala wajhi. Il a passé ensuite sa main bénie sur mon visage. Il a posé sa main sur mon ventre. Summaqala, Allahumma shfi sa'dan. En trois mots. Allahumma, qui veut dire oh Allah, shfi, accorde la santé à sa'd. Et pourquoi sa'dan? Il est complément, il est COI. C'est pour ça qu'il prend le tanwin en an. Oh Allah, accorde la santé à sa'd. En trois mots. Mais avec yaqin, conviction, husnul dhanni billahi, subhanallah. Donc voilà ce qu'on peut apporter quand on rend visite à un malade. Et donc n'oublions pas que le doua, c'est vraiment quelque chose qui va nous protéger et qui va nous guérir et nous protéger des maladies et des difficultés. On continue et là on va aller plus vite. On va aller plus vite. 25 minutes, nous reste 5 minutes. Parmi les remèdes que le prophète alayhi salat wa sallam nous enseigne, al-asal, d'où le verset yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. On est dans la sourate An-Nahl, d'accord? An-Nahl, c'est Fouami, d'accord? Miel de Fouami, Hadaïfa, non, c'est pas possible. An-Nahl, Na'am. Donc, je vous ai dit ça, médecine prophétique, vous avez tous les détails, nous on va pas aller dans ce mawdou'. Juste un hadith qui est intéressant, hadith de Abu Saïd. Alors, quel Abu Saïd? L'auteur ne précise pas. Quel Abu Saïd tu connais, toi? Al-Khudri, je pense que c'est lui. Hadith Abu Sa'id et le hadith rapporté par Bukhari Muslim. C'est du lourd. Anna rajulan ata an-nabi alayhi salatu wassalam fa qala akhi yashtaki batna. Un homme est venu voir le prophète, dit oh prophète d'Allah, mon frère se plaint, il a très mal au ventre. Même ça, le prophète salam écoute. C'est pas comme dit écoute, j'ai délégué des gens pour tel problème, moi je gère que les affaires importantes. Il écoute toutes les personnes qui venaient le voir. Avec simplicité et humilité. Permettez-moi une parenthèse, si le stade le permet. J'ai eu l'occasion de visiter le musée de, le palais de, je me trompe de le mot, Topkapi. Ça se dit comme ça? Oui. Hein? Bien prononcé, hein, très bien. C'était sans intérêt, mais bon, excusez-moi. Il y avait les trucs, l'héritage prophétique des Sahaba, ça c'était beau. Mais après tout le reste, c'était des trucs de vizir, et on a des explications, le tel empereur recevait les invités là, c'est magnifique, c'est très beau, mais ça ne m'intéressait pas. C'était des grands salons à l'Empire Ottoman, et ainsi de suite. Les ministres, les délégations étaient reçues tel endroit, quand c'était de telle région, tel endroit. Et là, tu te dis, le prophète alayhi salatu wassalam recevait tout le monde de la masjid. Que tu sois un bédouin qui sent le chameau et qui vient le voir, le prophète le reçoit comme un chef d'État. Fil masjidi. Simplicité. Simplicité. Frère, je referme cette parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Frère. Et donc la personne, il voit le prophète salam, il dit que mon frère a très mal. Il est malade, problème au niveau du ventre. Le prophète salam dit, isqihi asalan, donne-lui du miel. La personne revient une autre fois, je ne sais pas si c'est le lendemain ou autre. Il dit au prophète d'Allah, il est toujours malade. Le prophète salam a dit, tu lui as donné du miel? Il a dit, oui, mais il est encore plus malade depuis qu'il a pris le miel. Le prophète salam a dit, le miel. Il revient trois fois. Et à chaque fois, du prophète d'Allah, ça aggrave. Le prophète dit que ça n'aggrave. Je vous résume le hadith, hein, les mots, c'est pas comme ça. Ça n'a pas aggravé. C'est pas le miel le problème. Le problème, c'est le ventre de ton frère. Et au bout de la troisième fois, il a trouvé la santé. Et Ibn al-Qayyim, qui a beaucoup écrit hein, sur la médecine prophétique, il dit, en fait, cette personne avait quelque chose dans son ventre, dans l'appareil digestif, quelque chose d'impur. Et le miel évacue l'impureté. Et donc, le fait de prendre le miel, ça a augmenté un peu les symptômes, mais il fallait persister avec yaqin et conviction, et ensuite la personne a retrouvé la santé. Après, il développe, c'est beau, mais c'est trop long. La médecine, le prophète, n'est aucunement comparable à la médecine des êtres humains, quelles que soient les époques. Ça, c'est une révélation qui vient de la part d'Allah, mais qui nécessite piété, conviction et yaqin. Naam. Je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il y a Habatou Saouda, il faut développer un peu. J'avais espoir de finir ce soir, mais khair, il y a Habatou Saouda qu'on traduit par les graines de Nigel et Hijama. Hijama, j'aimerais développer un peu quand même. Donc ça, on ne peut pas bâcler ça, on ne va pas revenir dessus. Hijama, c'est quoi?
C'est
La saignée. Tu as déjà fait la saignée? Viens, 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 Missanio. La saignée, on va voir les joueurs recommandés, la façon de faire, et ainsi de suite. Mais là aussi, il y a des livres, hein, des ouvrages qui ont été écrits, traduits en français, je ne sais pas, mais sur les bienfaits de la saignée. Et ça, c'est, on le retrouve dans beaucoup de cultures, chez les Chinois aussi, hein, et la saignée. Mais après, il y a beaucoup de kinés qui font ce qu'on appelle. Et je dis pourquoi ça, je dis parce qu'on n'a pas le droit de faire saigner, on n'a pas le droit de couper. Apparemment, ça, c'est un acte qui n'est. Voilà, il faut d'autres habilitations. Ça peut être bien aussi, mais non. L'idéal, c'est quand il y a le sang qui sort. Donc, ça, justement, on va développer ça, Inch'Allah. On va voir également ce que le professeur m'a déconseillé, soigner par le feu. Et permettez-moi une petite parenthèse. Je ne sais pas si je serai vivant dans 2 semaines. Donc, autant vous le dire. C'est une tradition qui est toujours connue chez les Arabes. Et on avait des voisins à l'époque au Bidnillah. J'habitais à Madina, à Munawara. Et l'enfant était très malade, il avait une gastro, mais c'était vraiment le... Bref, vous savez c'est quoi une gastro. Et les parents, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, ils ont... Je dis ça, ne reproduisez pas ça chez vous, hein, comme les influenceurs disent, d'accord. Ne reproduisez pas ça chez vous, encore moins avec vos enfants, hein, je me désengage complètement. Il dit qu'ils font chauffer une cuillère, ils font chauffer une cuillère, et je ne sais pas chauffer combien, pas rouge, pas, d'accord, quand même pas. Et il pose sous le talon. Et je vous promets que les symptômes ont disparu mubasharatan, immédiatement. Les parents m'ont dit, voilà, on a fait ça, khalas, plus rien. Voilà, c'est des méthodes ancestrales hein, que les Arabes ont toujours connues. Ça se perd maintenant. Mais voilà, mais le professeur m'a déconseillé parce que le feu, c'est un élément de torture. Donc le professeur ne veut pas que ça umma du chien. Mais juste, on va juste aborder légèrement cette thématique. Et puis, le lait de vache. Même si de nos jours, les scientifiques disent que le lait de vache n'est pas bon, mais on va voir dans quelle mesure. Et quel est le hadith qui stipule que le lait de vache est profitable? Et avec les commentaires, on comprend mieux. On comprend mieux et on comprend surtout que notre lait à nous, il est bourré de microbes ici. Donc, c'est autre chose. D'accord? Et on terminera par l'ajwa. L'ajwa, les dattes qu'on appelle datchifa. Et bien sûr, la boisson par excellence, zamzam. Zamzam, Inch'Allah. Voilà, donc c'était un peu prétentieux de dire qu'on va finir ce soir. Allez, on passe en mode Gog et Magog. Mais non, mais j'avais dit Inch'Allah, pote. Donc, on complétera. Parce que je voulais terminer par un petit... Enfin, mais c'est long, il y a 8 points à citer. On est entré de le mois de... Alhamdoulilah, Sha'aban. Mois de Sha'aban est synonyme de jeûne. Et pourquoi le jeûne? Pour s'habituer au Ramadan? Oui, c'est une explication donnée par les savants. Mais il y a une autre sagesse, beaucoup plus profonde et beaucoup plus spirituelle. Je le dis pour aller plus vite, ça me dit, Sahaba du prophète d'Allah, nous n'avons jamais vu jeûner autant que durant le mois de Sha'aban. Comprenez, on ne parle pas de Ramadan. Le prophète dit que Dhaka Shahrun, c'est le mois dans lequel les actions sont présentées à Allah. Vous savez, les actions sont présentées à Allah le lundi, le jeudi, on explique ça ou la tani. Différentes périodes, différentes, d'accord, fréquences. Mais pour l'année, c'est le mois de Sha'aban. Le prophète souhaitait que quand ces actions seraient présentées à Allah, qu'il soit en état de jeûne pour qu'Allah soit satisfait de lui. Donc, faisons le niya, l'intention de jeûner au maximum, avec espoir que si je jeûne, Allah va être tolérant. Allah aura pitié de son serviteur. Quand Allah va voir mes péchés, Allah il connaît déjà, bien sûr. Quand Allah voit mes péchés, mais Allah voit que le serviteur a fait l'effort de jeûner, avec espoir qu'Allah nous accorde son pardon. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.